Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Suite des matins à 7h45, nous continuons notre série consacrée à ce qui a déjà changé dans notre société depuis le début de l'épidémie de Covid. Et aujourd'hui, pour évoquer la sphère de l'intime, je suis en compagnie de la sociologue Eva Illouz. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez notamment publié, Eva Illouz, La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain, paru aux éditions du Seuil. Qu'est-ce que vous retenez de cette période de confinement du point de vue de l'intime?
Alors, je dirais que cette crise a un caractère paradoxal, puisqu'il s'agit d'une crise avec des répercussions majeures sur la sphère politique et sur la sphère économique. Mais elle a été gérée de l'intérieur, à partir de la sphère du privé et même de l'intime, avec une disparition quasi totale de ce qui constituait, en tout cas pendant une période, de ce qui constituait le monde objectif, c'est-à-dire le paysage urbain ordinaire et des lieux de sociabilité ordinaires. Même en temps de guerre, d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas une telle disparition du monde objectif extérieur et un tel repli sur la sphère de l'intime, entièrement coupée, finalement, quand vous y réfléchissez, entièrement coupée des réseaux de solidarité familiaux ou autres. Donc, je dirais que l'intime a joué un rôle qu'il n'a peut-être jamais joué, en tout cas pas dans la période moderne, parce que si on parle d'une famille contemporaine, les enfants et les conjoints sont censés passer la plupart du temps dehors, à l'école ou au travail. Et ce qu'on appelle la famille moderne est une famille dont chaque membre a finalement une trajectoire distincte pendant la journée et qui se retrouve seulement le soir. Et donc, en temps normal, l'intime présuppose cette alternance, si vous voulez, entre l'absence et la présence. Elle présuppose cette séparation des trajectoires de chaque membre de la famille. Et là, il me semble qu'il s'est agi d'une forme différente de l'intime, puisque cette intimité n'a pas été sous-tendue par ce monde extérieur, ce monde du travail, ce monde de l'école, ce monde des loisirs. Il s'est agi en quelque sorte d'une intimité qui a été en état de quasi-implosion, une intimité trop intime en quelque sorte. C'est comme si on avait vécu finalement tous un huis clos sartrien au quotidien. Oui, enfin voilà quoi. Et donc, mais je tiens quand même à rajouter que ce qui a permis à cette intimité, en quelque sorte trop dense et trop intense, de tenir le coup pour beaucoup d'entre nous, ce sont les technologies du loisir comme la télévision, les jeux vidéo et l'internet, bien sûr. Et donc, cette crise, si vous voulez, est survenue dans un monde qui déjà auparavant, en fait, c'était déjà replié sur l'intime et qui s'était replié sur l'intime et le foyer précisément parce que les technologies y étaient déjà beaucoup plus présentes, ce qui veut donc dire que cette sphère, ce qu'on considère comme cette sphère privée et intime, ne l'est plus vraiment. Et c'est désormais devenu un endroit où on travaille, où on rencontre des gens virtuellement, où on va au cinéma, où on achète nos habits, etc. Et donc, ça a permis d'accélérer ce qui avait déjà changé dans la sphère de l'intime, c'est-à-dire que ça a permis d'en faire une sphère beaucoup plus publique finalement.
Malgré tout, Eva Illouz, une telle période d'intimité n'avait jamais été expérimentée par autant de personnes au même moment.
Oui, vous avez, je pense, tout à fait raison, puisque plus de 4,5 milliards de gens ont été confinés. Alors, je ne suis pas historienne, mais je ne crois pas qu'il y ait eu un précédent historique à cela. Alors, bien sûr, il y a eu des épidémies, des pandémies par le passé, et nous savons que les quarantaines étaient déjà pratiquées dans l'Antiquité. Mais je crois que c'était plutôt des quarantaines de quartiers ou de villes, et il ne s'est jamais agi de confinement, de quarantaine qui a une dimension globale et simultanée. Et donc, ce qui est vraiment véritablement nouveau, là, c'est l'échelle planétaire du confinement. Et quand on y pense, en fait, il y a une simultanéité, une coordination Alors, certes imparfaite, mais quand même assez étonnante des modes de gestion de cette crise sanitaire. Alors, c'est la Chine qui donne le ton et la planète entière a plus ou moins très vite suivi. Alors, évidemment, avec des styles politiques et sanitaires ici et là un peu différents. Mais finalement, il y a une convergence rapide sur les modes de gestion, ce qui explique ce fait quand même étonnant et spectaculaire. Je pense qu'on était tous dans un état aussi de stupeur à cause de ce fait, ce fait étonnant que la moitié de la planète a été confinée en même temps et que l'activité économique mondiale a été suspendue. Et donc, pour moi, cette crise a montré à quel point nous vivons désormais dans un seul monde. Personnellement, je n'ai jamais fait une expérience aussi aiguë et prononcée de la globalisation, c'est-à-dire finalement de la communauté de destin qui lie tous les hommes et les femmes de la planète, mais aussi du fait que les politiques maintenant sont imitées. Il y a un processus de diffusion très rapide des politiques sanitaires ou autres.
Mais
Voilà.
alors, dans le même temps, il y a un processus de globalisation et il y a un processus qui remet la notion de foyer, l'unité de base, sous un nouveau jour, Eva Illouz.
Oui, là encore, vous avez raison. Vous savez, Hannah Arendt, qui est une philosophe que j'aime beaucoup, était très inspirée par Aristote, pour qui la sphère publique et la sphère privée existent dans un rapport, disons, hiérarchique, puisque la sphère publique est celle des hommes libres qui s'occupent des affaires politiques, alors que la sphère privée est occupée par les mineurs, enfin par les femmes, les enfants, les esclaves, ceux qui ne sont pas libres. Et dans la sphère privée, pour Arendt, pour Arendt et pour Aristote, la sphère privée est nécessaire puisqu'elle est cruciale à la reproduction de l'espèce, mais elle est toujours inférieure à la sphère publique où les hommes libres peuvent délibérer et décider ensemble des affaires de la cité. Et donc, Arendt, qui n'était pas une grande féministe, ne tenait pas en grande estime, je dirais, la sphère privée. Et elle ne voyait pas le foyer comme beaucoup de femmes bourgeoises. Elle ne le voyait pas comme le lieu de l'accomplissement, je sais pas moi, de la respectabilité ou de l'expression des sentiments ou de la chaleur. Elle ne le voyait pas, en fait, comme un refuge contre un monde cruel, impersonnel et froid. D'ailleurs, il faut rappeler qu'au XIXe siècle, c'était comme ça qu'on voyait le foyer. Hein, on le voyait comme un refuge et comme un endroit très chaleureux. Et moi, j'ai envie de dire que cette crise a été comme une vaste expérience qu'on a faite sur des milliards de gens et qui finalement donne raison à Arendt et qui montre que le foyer, en tant que tel, n'est pas un monde, elle ne peut pas être un monde, ne peut pas constituer ce qu'on appelle un monde, et que en fait le foyer n'a vraiment de sens que s'il est sous-tendu par un monde public. Et donc pour moi, c'est un peu, si vous voulez, comme si toute la mythologie romantique ou bourgeoise du foyer partait en fumée, parce qu'effectivement, un foyer qui n'est pas traversé ou structuré en amont par un monde extérieur, qui n'est pas en contact avec un monde extérieur, est un foyer qui devient ou bien un peu intéressant ou bien opprimant. Donc, nous ne sommes pas, je crois, des créatures de l'intime, mais du social.
Alors,
Voilà.
justement, dans ce contexte-là, Eva Illouz, qu'est-ce que ça a changé pour l'amour, pour les couples ou bien aussi pour les célibataires?
Alors, pour les célibataires, vous savez, en temps normal, être célibataire, ça veut dire surtout, je crois, être libre. C'est la signification principale que les célibataires attribuent à leur vie. Pensez à la série télévisée célèbre Sex and the City, où quatre femmes célibataires cherchent un homme, mais ont un style de vie joyeux et glamour, plein d'aventures, auxquelles elles sont finalement très peu prêtes à renoncer. Elles ne veulent pas renoncer à leur liberté aussi facilement. Et donc les célibataires, par rapport aux gens non célibataires, ont l'avantage de la liberté. Et cette liberté, sociologiquement, elle a une expression dans un style de vie qui tourne autour de la consommation, des loisirs, des amis, des sites de rencontres, des voyages, etc. Donc, il y a véritablement, je dirais, une institutionnalisation de la liberté chez les célibataires. Or, toute cette pratique du célibat, ce style de vie, se sont arrêtés d'un coup d'un seul pour les célibataires. Et je crois, mais encore une fois, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Et mon hypothèse là-dessus est aussi bonne que la vôtre. Mais je crois que la privation du monde social a sans doute été plus difficile pour eux. Si vous voulez, si on réfléchit à la famille, à ceux qui étaient en structure familiale, au fond, vous savez, la famille est une structure sociale qui est déjà un peu confinée. Et le confinement entre avant et après, et donc, je pense, a été une rupture plus forte pour les célibataires que pour les familles, même si évidemment être dans un petit espace à plusieurs n'est pas facile. Mais je crois qu'il y a eu peut-être une ligne de démarcation nette entre ceux qui ont pu rester confinés avec des proches et ceux qui ont dû assumer seuls le confinement dans ce sens-là. La crise, me semble-t-il, a peut-être mis en relief la différence entre deux groupes entre lesquels il n'y a pas normalement de ligne de démarcation nette, c'est-à-dire les célibataires, qui d'ailleurs sont de plus nombreux dans nos sociétés, et ceux qui avaient des structures familiales sur lesquelles ils pouvaient compter. Alors, oui, excusez-moi,
Mais alors,
je voulais rajouter un mot sur les couples et les hétérosexuels, mais
je
c'est
vous en
comme vous
prie,
voulez.
allez-y.
Alors, pour les hétérosexuels, enfin les familles, disons, conventionnelles, je dirais que là aussi, la crise a peut-être mis en relief des choses qui sont plus floues, qui sont donc plus floues parce que gérées. Et donc, le confinement a eu pour effet de faire en sorte que les hommes et les femmes qui sont d'ordinaire séparés par le travail soient de façon continue ensemble. Donc ça a eu pour effet d'exacerber les différences entre les sexes, puisque ce sont les femmes qui ont pris en charge le travail ménager. Pour les classes moyennes et classes moyennes supérieures, il n'y avait plus d'aide ménagère. Pour les autres, ça a été exacerbé. Le confinement a eu aussi pour effet d'accentuer la violence des hommes, puisque dans beaucoup d'endroits dans le monde, la violence masculine a augmenté en fait, et considérablement parfois. Et on peut imaginer que beaucoup d'hommes qui se retrouvent du jour au lendemain en situation de précarité professionnelle et d'incertitude, donc, du coup, rendent cet espace intime plus dangereux. Et j'ai lu dans plusieurs endroits que quand le déconfinement a commencé dans la région de Hubei, il y avait eu un taux record de demandes de divorce. Alors, je pense que l'évidence, enfin, que c'est pas très scientifique parce que la Chine ne publie ses statistiques qu'une fois par an. Mais il y avait des photos montrant les queues devant les tribunaux. Et donc, ces divorces étaient en quelque sorte l'illustration qu'une intimité prolongée, finalement, n'est pas une bonne façon de vivre le couple, en tout cas pour beaucoup de couples hétérosexuels.
Ce qui veut
Voilà, est-ce
dire
que vous arrêtez
en conclusion rapide Eva Illouz, que la passion amoureuse a du mal à survivre aux catastrophes?
Ah, ben je ne sais pas, j'aurais tendance à penser que oui et non. Oui, la passion, alors d'une part, se tarit pendant les catastrophes parce que la passion présuppose, si vous voulez, des corps sexualisés, attirants, sains, et surtout, elle présuppose un accès spontané et irréfléchi à ces corps sains. Or, ce virus tend à rendre le corps d'un autre une source d'incertitude et d'angoisse. je pense que ça tend à nous mettre dans une situation que j'appellerais réflexive sur la gestion du risque. Et la passion, c'est quelque chose, c'est opposé à ça. Ça tend à la fusion, ça tend au désir spontané. Or, s'il y a quelque chose que précisément nous avons perdu, cette capacité à être fusionnelle et spontanée. Mais j'ai aussi envie de me contredire et de dire que la crise du sida, qui a été une crise qui a ravagé des dizaines de millions de gens depuis le début de l'épidémie, et qui, dans les années 80, a décimé la communauté homosexuelle, alors non seulement n'a pas empêché la passion des hommes entre eux, mais a été l'occasion d'expression de loyauté, de dévouement exceptionnel au sein de la communauté. Donc, je n'ai pas l'impression que cette catastrophe, à côté de laquelle nous, hétérosexuels, nous avons vécu, je n'ai pas l'impression que ça a changé profondément la passion amoureuse des hommes entre eux. Voilà. Donc, c'est oui et non à la fois.
Merci beaucoup. Eva Illouz, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain. Ce livre est paru aux éditions du Seuil. Dans quelques instants, on va évoquer un autre aspect de cette crise du Covid avec la manière dont elle a posé la question de nos aînés. Nous serons en compagnie de l'ancienne ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay, et de la productrice à France Culture, Mélisse Bessery, qui vient d'être récompensée pour son roman Le tiers-temps aux éditions Gallimard. 8h passées d'une minute, pardon pour le retard. Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus de 4 millions de foyers modestes vont recevoir à partir d'aujourd'hui une aide exceptionnelle de solidarité. 150 euros minimum, plus 100 euros par enfant de moins de 20 ans. Cela compensera-t-il l'absence de cantine pendant des semaines et la plus grande consommation d'électricité en ces temps de confinement? Pas si sûr, nous dira la Fondation Abbé Pierre en début de journal.
Ils croulent sous le travail mais ne gagnent pas assez. Les internes en médecine dénoncent une situation intolérable. Elle s'est aggravée avec le coronavirus, vous l'entendrez.
Dans cette édition, nous ferons aussi un point nécessaire sur les agissements des groupes djihadistes en ce moment. La fermeture de mosquées et la crise économique nourrissent leurs ressentiments.
Et puis nous nous intéresserons à la situation du plus gros distributeur de presse en France. Prestalis risque la liquidation judiciaire partielle aujourd'hui.
Dans un gros quart d'heure, le billet politique, Frédéric Saïs se demandera ce matin si la crise sanitaire va doper ou affaiblir les dirigeants autoritaires. Le versement sera automatique, sans démarche nécessaire. À partir d'aujourd'hui, une aide exceptionnelle de solidarité sera versée à des familles modestes, via la caisse d'allocation familiale, la mutualité agricole ou Pôle emploi. Selon le gouvernement, plus de 4 millions de foyers sont concernés pour une enveloppe totale de 900 millions d'euros. À quoi correspond-elle, Catherine Pétillon ?
150 euros vont être versés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, ou de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi en fin de droit. S'y ajouteront 100 euros de plus par enfant à charge. Par ailleurs, toutes les familles touchant des aides personnelles au logement des APL en avril ou en mai bénéficieront d'une aide de 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans. Le confinement et le ralentissement économique ont déjà provoqué chez les plus pauvres et les plus fragiles à la fois des pertes de revenus et des charges supplémentaires en raison par exemple de l'absence de cantine scolaire ou de la hausse de la consommation d'électricité. Les associations de lutte contre la pauvreté plaidaient donc pour une mesure de ce type depuis des semaines, mais leur satisfaction est matinée de déception devant les limites de cette aide. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Cette aide, elle est indispensable, donc il faut d'abord saluer le geste. Par contre, elle présente quand même beaucoup de limites, d'insuffisances. D'abord, il y a tout un pan de la population en situation de fragilité qui n'est pas concerné. C'est le cas de ceux, par exemple, qui bénéficient du minimum vieillesse. Les ménages non plus qui sont concernés par l'AAH, l'allocation adulte handicapé, les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas le RSA, ça c'est un problème. Ensuite, de notre point de vue, le montant il est pas suffisant. C'est une seule fois que cette aide va être versée.
Les associations réclament un périmètre de bénéficiaires plus large pour cette aide, un montant de 250 euros et surtout qu'elle soit reconduite.
À propos de la précarité, encore retrouvée sur notre site internet franceculture.fr, un papier sur la bombe à retardement du logement ou comment l'appauvrissement des populations modestes pourrait mener à des vagues d'expulsion dans le parc privé et social. La précarité et la solidarité aussi qui en découlent, il ne faut pas l'oublier. C'est l'une des conséquences du confinement qui aura duré 8 semaines. Une nouvelle économie sociale et solidaire a vu le jour. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour, bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver Sophie pour le grand reportage de France Culture qui est de retour à l'antenne cette semaine, lui aussi après 8 semaines. Alors Sophie, pour ce reportage qui sera diffusé ce soir, vous avez rencontré pas mal de monde en respectant évidemment les gestes sanitaires. Les initiatives ont été nombreuses pour pallier le manque de matériel et de structures face au coronavirus.
Oui, du jour au lendemain, un peu partout en France, une créativité et un dévouement social extraordinaire, au sens propre du mot, se sont révélés. Dans ce reportage, nous retrouverons Elisabeth, infirmière volontaire de 45 ans, mère de famille, partie du Var. Elle a passé 1 mois et demi dans un service pneumo-covid de Seine-Saint-Denis, logée gratuitement dans un hôtel 4 étoiles. Des soignants combattant en première ligne, bien souvent, trop souvent sans protection suffisante. Alors ce sont des citoyens et même parfois des adolescents qui ont répondu à l'appel à l'aide des hôpitaux sous-équipés. Dans le 13e arrondissement de Paris, nous irons chez Roméo, 14 ans, élève de 3e, rencontré pour la première fois le 8 avril dernier. Il est devenu depuis l'un des symboles de cette nouvelle économie du dévouement individuel pour le collectif, en produisant à la chaîne des visières de protection à partir d'imprimantes 3D, seul dans sa chambre, pour les livrer tous les jours à l'hôpital de son quartier. Nous irons aussi chez le constructeur automobile PSA, reconverti en fabrique de respirateurs. Et plein d'autres initiatives encore, notamment la confection massive de masques en tissu, quartier de la Goutte d'Or à Paris. Notre collègue Anne Falkenberg nous y emmènera. Cette nouvelle économie sociale et solidaire, cette révolution en acte, est au cœur de notre émission ce soir, autour d'une question centrale, ce modèle survivra-t-il à la crise du Covid ?
Eh bien, nous les découvrirons avec vous, Sophie. Merci beaucoup. On retrouve le grand reportage à partir de 17h ce soir. Il est réalisé par Jean-François Braun et Annie Brault. Et Daniel Cohen, professeur d'économie à l'ENS, sera présent pour en discuter ensuite. On ne peut pas redémarrer comme s'il ne s'était rien passé. L'Élysée entrouvre la porte pour un futur plan pour l'hôpital. Emmanuel Macron s'est entretenu pendant près de 2 heures hier avec une dizaine de médecins hospitaliers. Il laissera bientôt le ministre de la Santé, Olivier Véran, ouvrir les discussions sur une future réforme. Il était temps, diront beaucoup de professionnels, mobilisés bien avant la crise du coronavirus, il y a plus d'un an. Parmi eux, les internes en médecine. Ils travaillent, selon leur intersyndicale, l'ISNI, 58 heures par semaine en moyenne, et ils sont un peu plus essorés, si tant est que ce soit possible, par l'épidémie, Tara Schlegel.
Avec le Covid-19, la situation s'est aggravée, confie Léonard Corti, le secrétaire général de l'ISNI.
Il y a certains internes, notamment les internes d'anesthésie-réanimation, qui ont vraiment vu leur temps de travail exploser. Et ce qu'on a vu vraiment exploser aussi, et ça on essaie de récupérer des données, mais c'est un peu compliqué, c'est le non-respect du repos de sécurité pendant cette période.
Ce repos est normalement obligatoire. Quand l'interne a travaillé un jour, puis enchaîné une garde de nuit, il doit rentrer chez lui. Mais bien souvent...
Il termine sa garde, il est 8h30, 9h le lendemain. Et à ce moment-là, il remonte dans son service et en fait, il se retrouve à travailler encore la matinée ou voire même la journée parce qu'il a des patients à voir, il a des dossiers à terminer ou alors il y a la consultation d'un de ses chefs qu'il va falloir qu'il fasse parce que son chef n'est pas disponible. Et donc du coup, on a des internes qui, par exemple, sortent de l'hôpital après avoir travaillé 36, 37, 40 heures d'affilée.
Et ce n'est pas exceptionnel, 29% des internes déclarent ne pas pouvoir prendre systématiquement ce repos. Ils étaient 20% en 2008, la situation s'aggrave. Depuis janvier, 4 étudiants se sont donné la mort, souligne Justin Bresse, président de l'ISNI.
On est extrêmement inquiets, on est aussi en colère. Il y a eu une mobilisation des internes en décembre, on n'a pas été entendu. Donc on ne peut pas se satisfaire d'effets d'annonce qui, au final, ne sont jamais appliqués.
Allusion à la prime que vient d'annoncer le gouvernement. Les internes, eux, ont d'autres revendications, qu'on décompte enfin chaque heure qu'ils passent à l'hôpital pour prouver que leurs droits sont bafoués.
Et la prime évoquée à l'instant, entre 500 et 1500 euros en fonction des soignants et des régions, cette prime sera versée au mois de juin au plus tard. Ce n'est pas suffisant, selon la plupart des professionnels de santé. Il faudrait déjà, disent-ils, payer les heures supplémentaires. Et il y aura des vacanciers cet été. janvier. Les voyages en métropole et en outre-mer seront possibles au mois de juillet et au mois d'août. Les réservations de trains à la SNCF peuvent commencer dès aujourd'hui. Billets remboursables et échangeables en cas de nouvelles restrictions. Le Premier ministre Édouard Philippe entend ainsi soutenir les professionnels du tourisme avec une enveloppe globale également de 18 milliards d'euros. Les bars et les restaurants pourraient ouvrir début juin en fonction de l'évolution de la situation dans les départements classés verts, évidemment. Qu'en est-il en revanche pour les professionnels français expatriés ? Français donc, mais dont la petite entreprise est étrangère. Ils sont durement touchés par les conséquences économiques du coronavirus et trop peu entendus, selon eux, par le gouvernement. Bertrand Galichet nous en donne quelques exemples.
Propriétaire d'un lodge au sud de Dakar, ce Français quinquagénaire monte la garde lui-même de nuit pour surveiller son hôtel vide. Une affaire lancée l'an dernier, la crise du coronavirus l'a obligé à renvoyer tout le personnel.
Ça fait 2 mois qu'il n'y a absolument rien qui rentre. On se retrouve quand même tous avec des charges à payer quand même. Bon là, c'est sûr qu'il n'y a plus de touristes du tout. Comment on fait ? Là, je survis parce que j'ai eu une aide familiale, on vient de m'envoyer de l'argent. La solution, c'est pas de dire, écoutez, prenez un avion et rentrez chez vous, parce que chez nous, c'est ici.
L'hôtelier regrette que Paris n'aide au Sénégal que les grandes sociétés, en oubliant les petits entrepreneurs français menacés par la faillite. Joëlle Gariot-Mellam, sénatrice des Français de l'étranger, a déposé sans succès un amendement qui leur aurait permis de bénéficier du fonds de 7,5 milliards d'euros destiné aux plus fragiles.
Il n'y a absolument aucune protection. Il ne leur reste souvent comme possibilité que de pouvoir rentrer en France, de voir s'effondrer les efforts parfois de toute une vie dans le pays où ils sont acteurs de notre rayonnement et de notre influence.
La sénatrice observe que leur apporter un soutien immédiat coûterait moins cher que les aides sociales à leur retour en France.
Aucun pays ne sera privilégié si Sanofi commercialise un vaccin contre la Covid-19. Le président du conseil d'administration du laboratoire français le précisait encore hier soir après avoir donné l'avantage aux États-Unis. Cela a créé hier une polémique, de nombreux dirigeants et organismes appelant à un accès équitable et universel. Notez par ailleurs qu'aujourd'hui, les ministres des Finances de la zone euro doivent se réunir à Bruxelles pour discuter de la riposte à la crise.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le groupe État islamique serait derrière l'attentat perpétré dans un hôpital de Kaboul mardi dernier.
Oui, attentat qui a tué au moins 16 personnes, dont 2 nouveau-nés dans une maternité. Les États-Unis ont en effet déterminé que Daesh a mené ces 2 attaques, car la pandémie liée au coronavirus n'a malheureusement pas éclipsé la menace djihadiste dans le monde. En Afghanistan donc, mais aussi au Sahel et au Proche-Orient, la pandémie est loin d'avoir poussé les terroristes à abandonner leurs armes, bien au contraire, Claude Guibal.
Depuis le début de la pandémie, les groupes djihadistes ont su capitaliser sur la peur provoquée par le Covid-19. Une manifestation de Dieu contre les sociétés païennes expliquait ainsi Daesh à ses partisans dès le mois de janvier. De quoi appuyer l'idéologie apocalyptique des groupes armés qui cherchent à utiliser les conséquences de l'épidémie pour étendre leur influence. Dans la zone sahélienne ou au Proche-Orient, de nombreux pays ont ordonné la fermeture des mosquées pour éviter la propagation du virus. Et cela a évidemment provoqué la fureur des radicaux et c'est cette colère qui nourrit le ressentiment des populations les plus pauvres, encore plus frappées pendant ce mois de Ramadan par l'inflation des prix liés aux pénuries. Et les attaques, elles ne font que se multiplier au Cameroun, au Burkina Faso ou encore sur les bords du lac Tchad où Boko Haram et sa branche dissidente, l'ISWAP, ont étendu leurs offensives. La semaine dernière, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a sonné l'alarme en rappelant que les groupes terroristes exploitaient la situation. Des opérations de la force du G5 Sahel ont en effet été reportées du fait de la fermeture des frontières liées à l'épidémie.
Son compagnon avait semé la terreur en janvier 2015 en région parisienne. La compagne d'Amedi Coulibaly est visée par une nouvelle enquête antiterroriste. Une femme revenant de la zone irako-syrienne affirmait en octobre dernier que Hayat Boumediene, la compagne donc d'Amedi Coulibaly, était en vie et qu'elle se serait échappée d'un camp en octobre dernier. La justice française ouvre donc une enquête. Le parquet de Paris réclame lui un procès aux assises pour crime à caractère antisémite à l'encontre des assassins présumés de Myriel Knoll. L'octogénaire juive avait été tué à Paris en mars 2018. C'est devant le Conseil d'État que la question de l'interdiction de célébrer les cultes sera examinée aujourd'hui. À l'origine de ces requêtes en référé, plusieurs associations qui veulent pouvoir célébrer des cultes en France. Elles regrettent que les portes des lieux de culte restent fermées en ce moment, Antoine Marette.
Depuis le 11 mai, de nombreux commerces ont pu rouvrir, comme les salons de coiffure par exemple. Mais le Premier ministre a décidé de maintenir l'interdiction de célébrer des cultes, à l'exception des funérailles, limité dans ce cas à 20 personnes. C'est ce qui est contesté par le président du Parti chrétien-démocrate. Jean-Frédéric Poisson estime que cela constitue une atteinte aux libertés fondamentales.
Les différentes confessions sont parfaitement capables d'organiser ces cérémonies en parfaite conformité avec les réglementations sanitaires et les contraintes sanitaires qui sont maintenues du fait de l'épidémie. Donc nous avons contesté ce fait pour deux raisons. La première, c'est que la liberté de culte est une liberté fondamentale reconnue par la Constitution et d'ailleurs par la jurisprudence du Conseil d'État. Et deuxièmement, nous considérons que le maintien de cette interdiction de célébrer des offices religieux est discriminatoire, d'abord au titre d'une différence qui est faite entre les différentes formes d'activité humaine que chacun est à même de pouvoir pratiquer, et deuxièmement en fonction de la géographie, puisque nous avons bien compris avec la publication des cartes que maintenant la Direction Générale de la Santé publie jour par jour, les territoires doivent pouvoir être traités différemment sous le rapport d'un certain nombre d'activités. C'est d'ailleurs exactement le sens de cette carte publiée par le gouvernement.
Autre argument de Jean-Frédéric Poisson, le décret du 11 mai. Il précise notamment que chaque préfet de département peut interdire la tenue de culte, ce qui sous-entend, selon lui, que la liberté de culte redevient principe général et son interdiction une exception. Le Conseil d'État a jugé recevable sa requête en référé. Il va l'examiner cet après-midi. Mais de son côté, la Conférence des évêques de France, qui a réclamé la reprise des cultes, n'a pas pour autant suivi le Parti chrétien-démocrate dans cette procédure.
Merci Antoine Marette. C'est une des conséquences du confinement de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Le nombre de morts sur les routes en France métropolitaine a baissé de plus de 55% en avril, chiffre comparé à l'année dernière, à la même époque. Cela fait 3 jours que les kiosques et les points presse ne reçoivent plus les journaux et les magazines nationaux. 3 jours qu'une grève du puissant syndicat du livre CGT a débuté. Il dénonce en fait un plan de restructuration chez Presstalis. Le principal distributeur de la presse en France joue son avenir cet après-midi devant le tribunal de commerce de Paris. Il pourrait perdre 70% de ses effectifs avec en toile de fond l'avenir de la presse papier, Maxime Tellier.
Presstalis, c'est le géant de la distribution des journaux en France, ex-NMPP, nouvelle messagerie de la presse parisienne. Le groupe distribue la totalité des quotidiens nationaux et les 3/4 des magazines. Mais Presstalis va mal et depuis longtemps, étranglé par une dette colossale en raison de la baisse continue des ventes de journaux en kiosque. Le marché dégringole de 15% chaque année, d'après le président de Presstalis. La cessation de paiement déclarée le 20 avril est donc tout sauf une surprise, même si la situation a pu être aggravée par le confinement. L'unique plan de reprise sur la table est en tout cas douloureux. Les éditeurs des quotidiens nationaux proposent de reprendre un peu plus de la moitié des salariés au siège parisien et sur la plateforme de Bobigny, mais aucun dans les dépôts régionaux, ce qui fait en tout plus de 600 suppressions de postes. Et même là, il n'est pas certain que ce énième plan de sauvetage soit viable, car il n'est pas soutenu par la presse magazine, dont le produit des ventes est indispensable à Presstalis pour survivre. Certains titres tiennent toutefois absolument à sauver le distributeur pour récupérer l'argent de la vente des numéros, plus de 100 millions d'euros actuellement gelés. En attendant, d'autres ont déjà fait le choix de partir à la concurrence vers les MLP, messagerie lyonnaise de presse. C'est le cas par exemple de Society ou encore de l'hebdomadaire Le 1.
Un chapitre des médias encore, notez que le groupe Altice France se sépare du quotidien Libération. Il sera transféré dans une société à but non lucratif, censée garantir l'indépendance du titre. Le soleil s'installe sur une large partie du pays ce vendredi, excepté sur le sud-est où des averses pourraient tourner à l'orage. Ce matin, comptez 12 degrés à Brest, à Lille et à Besançon, 14 à Paris et à Lyon, et puis 19 degrés à Nice, Guillaume.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez mes camarades de la séquence TTC, Mathilde Serrel, Hervé Gardette et Nicolas Martin pour sa radiographie du coronavirus. On va évoquer la place de nos aînés alors que les premières victimes de la Covid-19 sont les plus de 75 ans avec plus de 10 000 victimes dans les EHPAD. On va se demander si cette crise sanitaire peut faire évoluer la place des personnes âgées dans la société. Nous serons en compagnie de Michel Delaunay, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie. Et puis également en compagnie de Mélisse Besserie, notre camarade a publié un roman remarqué, Le Tiers-Temps, chez Gallimard. Il a reçu lundi le prix Goncourt du premier roman et il évoque les derniers mois de la vie du dramaturge irlandais Samuel Beckett au sein d'une maison de retraite parisienne. Mais immédiatement, voici le billet politique de Frédéric Seize. La crise sanitaire va-t-elle doper ou affaiblir les dirigeants autoritaires ?
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les matins du samedi reviennent en direct sur France Culture avec les journaux, les chroniques, la fabrique médiatique, à propos d'ailleurs, et la revue de presse des idées. Caroline Brouet aura pour invité exceptionnel Mati Diop, lauréate du prix France Culture Cinéma des étudiants pour son film Atlantique. En prélude à un grand week-end cinéma sur notre antenne, en partenariat avec la plateforme France.tv et la sélection de la quinzaine des réalisateurs. Les matins du samedi, de Caroline Brouet, ce samedi dès 7h et sur franceculture.fr.
8h20 sur France Culture, suite des matins. Le billet politique, Frédéric Seiz, bonjour. La pandémie va-t-elle remettre au goût du jour les dirigeants autoritaires ou bien au contraire nous vacciner contre eux ?
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une harangue derrière un pupitre face aux caméras. Ce jour-là, comme souvent, le président des Philippines ne s'encombre pas de nuances. L'air exalté dans son polo beige, Rodrigo Duterte prévient qu'il donnera l'ordre à l'armée de tirer à balles réelles contre ses concitoyens qui ne respectent pas le confinement. Dans cet archipel, tenu d'une main de fer depuis 2016, les passants pris en faute sont aussi condamnés à porter des cercueils dans la rue, une humiliation publique pour leur faire passer l'envie de ressortir. Cet exemple extrême pose une question politique plus large. Comment la pandémie va-t-elle influer sur les gouvernances ? En d'autres termes, va-t-elle favoriser ses dirigeants autoritaires dans le style grande gueule et gros bras ? Ou au contraire, va-t-elle montrer ce que leur posture a d'artificiel et au fond d'inefficace ? C'est une interrogation à laquelle il est bien sûr pour l'instant difficile de répondre de manière tranchée en l'absence d'élections majeures depuis le début de l'épidémie. D'autant plus difficile d'ailleurs que les éléments de réponses qu'on peut pour l'instant amasser sont contradictoires entre eux. Faisons un petit tour d'horizon. Dans le Brésil de Bolsonaro, c'est jusqu'ici le chaos qui prédomine. Le président brésilien a affirmé ne pas croire à la dangerosité du virus, qu'il qualifie de grippette, tandis que le nombre de contaminations s'accroît très rapidement. Un sentiment de désordre renforcé par le système fédéral qui pousse chaque État à décider de sa propre politique de confinement, ce qui entraîne une confusion générale confortée par de nombreux doutes sur les statistiques officielles. Une première conséquence politique, l'un des alliés de Bolsonaro, l'ancien juge Moro, a décidé de quitter le gouvernement sans autre forme de procès. Aux États-Unis, tableau relativement similaire. Un président qui enchaîne les éructations contradictoires, un bilan sanitaire catastrophique, tandis que la Maison-Blanche désigne des boucs émissaires, tour à tour, les gouverneurs, la Chine ou Barack Obama. À ce stade, l'on peut constater que cette pandémie fragilise le discours de ses leaders grande gueule et gros bras. Ils étaient censés mettre fin à l'impuissance politique. Les voici démunis devant le coronavirus. Ce crash test va-t-il démontrer aux électeurs que les harangues sont télégéniques mais peu utiles, que la démonstration de muscles peut certes avoir un effet psychologique sur le cours de la bourse, sur les relations diplomatiques, sur l'enthousiasme de partisans dans un meeting, mais qu'en l'occurrence, contre un micro-organisme pathogène, l'efficacité du roulement de mécanique est assez limitée. C'est peut-être l'enseignement sur lequel médite Boris Johnson. Le Premier ministre britannique est, à une échelle différente, un autre de ces dirigeants clownesques, ne disons pas populistes, car le mot est trop multiple, mais disons clownesque ou plus précisément, comme me l'a suggéré une oreille amicale, reprenons le concept de pagliacisme. Développé par le philosophe Jean-Louis Vulierme, le mot pagliacisme vient de la Commedia dell'arte et désigne le dirigeant fantaisiste et matamore à la virilité mise en scène et aux compétences incertaines. Dans ce genre clownesque ou pagliacique donc, Boris Johnson a séché 5 réunions de crise sur la Covid-19, tout en affirmant qu'il continuerait les bains de foule pendant que sa stratégie était de miser sur l'immunité collective avant de faire machine arrière, lui-même ayant été contaminé. Bref, tout est le contraire de tout. Alors il y a là les ingrédients pour le retour en grâce d'une figure politique qu'on croyait dépassée, le technocrate, certes ennuyeux et fade, mais diplômé, instruit et rationnel en théorie. Ses cheveux ne sont pas en pétard, ses déclarations ne sont pas fracassantes, mais il apporte un peu de tempérance rassurante face à une crise inédite qui tolère mal les changements de bord. Mais se dire cela, c'est peut-être confondre la logique et la réalité. Les cotes de popularité de Bolsonaro, de Trump et de Johnson restent relativement relativement élevée, comme si la crise polarisait encore plus les opinions publiques et radicalisait leur soutien comme leurs opposants. La suite nous dira si la technique du bouc émissaire fonctionne, si leurs électeurs sont prêts à croire que la débâcle vient du fait qu'il existe encore trop de contre-pouvoirs qui mettent des bâtons dans les roues au génie qui gouverne.
Merci beaucoup Frédéric Saïs pour ce billet politique. On le retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 8h25.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Selon le dernier bilan officiel, la Covid-19 a jusqu'ici provoqué 9973 décès en EHPAD sur plus de 27 000 morts en France. La gestion de la crise sanitaire est fréquemment critiquée, en particulier dans les structures qui accueillent nos aînés, pourtant cibles privilégiées du virus. La crise sanitaire pourrait-elle faire évoluer la place des personnes âgées dans la société? Bonjour Michel Delaunay.
Bonjour.
Vous êtes...
Je voulais vous
présenter, Michel, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie et également cancérologue. Votre point de vue sur la possibilité que cette crise fasse évoluer notre représentation des personnes âgées, la manière dont celles-ci sont traitées dans notre société?
En tout cas, les chiffres sont éloquents et devraient en effet peser sur la place et la conception que nous avons du grand âge. Car, vous l'avez dit, les morts de la Covid sont essentiellement des grands âgés. Et ce sont, pour la première fois hier, une voix ministérielle a reconnu que 14 000 décès avait eu lieu, avait concerné des résidents d'EHPAD, si on y ajoute ceux qui ont été transférés au dernier moment à l'hôpital. 14 000. Par ailleurs, 90% des morts du Covid ont plus de 70 ans. Donc, c'est très clairement une interpellation considérable, d'une part, à la longévité que nous avions, que nous croyons solide, mais j'espère que la durée de la pandémie permettra que cette pandémie ne fasse qu'un coup de canif dans les courbes d'espérance de vie. Mais en tout cas, il est certain que nous devons revoir notre conception du grand âge et l'accueil du grand âge. Je crois qu'il y a énormément à faire. Vous savez que malheureusement, deux gouvernements, dont le mien, a repoussé la loi grand âge qui s'impose. Mais tout ne dépendra pas de la loi. C'est aussi à la société d'évoluer, car il est assez terrible de penser que 50% des morts de cette pandémie ont eu lieu en EHPAD, alors que les EHPAD ne représentent qu'1% de la population.
Mais alors justement, Michel Delaunay, vous qui avez été ministre, mais également cancérologue, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce qu'il y a eu une faute qui a été commise en France, dans d'autres pays aussi, puisque une situation comparable se trouve également en Angleterre, probablement aussi aux États-Unis? Bref, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Alors, tout à fait, principalement, ce n'est pas une faute, c'est un retard important. Et ce retard, très probablement, a été à l'origine de beaucoup de vies perdues. Vous avez raison, le Royaume-Uni qui a commencé à compter les morts en EHPAD que fin avril est dans une situation pire. Mais il y a eu un retard important. Alors que, disons-le tout à fait calmement, ce ne sont pas des reproches, ce sont des constats, alors que, avec l'expérience des Italiens, nous savions dès le début que les morts, que la Covid était particulièrement dangereuse pour les âgés et en particulier pour les grands âgés. Imaginez, et cela témoigne d'une espèce d'intérêt moindre, ou en tout cas secondaire, nous attribuons au grand âge. Imaginez, par exemple, que dans le courant, à la fin mars, 27 morts aient eu lieu en 3 jours dans une résidence étudiante. Et que, comme la grippe espagnole, cette pandémie concerne les personnes de 20 à 30 ans. Eh bien, c'était la révolution tout de suite. Et vous voyez, c'est... Et l'on aurait testé tout le monde, mis ces établissements tout de suite en isolement, extrait les personnes négatives. C'est essentiel, le test. Et si nous avions pu extraire les personnes négatives, ou l'inverse, en tout cas, isoler les deux populations très vite, eh bien, nous aurions eu moins de morts. Eh bien, tout cela, il faut que nous y réfléchissions tous. Vous voyez, au début de l'épidémie, quand on a déclaré l'isolement individuel des résidents d'EHPAD, j'ai proposé que les familles qui le pourraient et qui le voudraient puissent sortir leurs résidents et le faire revenir à domicile. Bien sûr, si son état le permettait. Eh bien, cette mesure très simple n'a pas été même relayée.
Mais justement, Michel Delaunay, vous qui avez été ministre délégué aux personnes âgées, est-ce que ce type de plan existe? Est-ce qu'il y avait dans les cartons, dans le cas d'une pandémie, une pandémie qui touche nécessairement plus les personnes âgées, puisque c'est le cas, je crois, de la plupart des maladies respiratoires, est-ce qu'il y avait un plan prévu pour ou bien isoler les EHPAD, ou bien faire en sorte que les personnes âgées qui ont de la famille puissent y retourner, par exemple?
Exactement. Eh bien, soyons tout à fait honnêtes, il n'y avait pas de plan épidémie, mais... Nous avions déjà réfléchi à l'acte 2 de la loi ASV que j'ai élaboré et nous avions réfléchi à la situation des EHPAD et en particulier à leur plus grande ouverture. Mais tout cela était embryonnaire et n'a pas été fait, et c'est mon grand regret, vous vous en doutez, ce qui motive aussi mon intérêt considérable pour ce secteur, car aujourd'hui, il ne faut plus tarder. Vous voyez, la génération qui va bientôt avoir l'âge d'entrer en EHPAD, c'est la génération des baby-boomers. Eh bien, l'EHPAD n'est pas du tout adapté au goût de la liberté de cette génération et au goût de la liberté de tout le monde. Il faut, par exemple, que l'on puisse sortir de l'EHPAD temporairement, sans frais, ce qui n'est pas le cas actuellement, sans frais pour la famille ou pour le grand âgé, et que cette EHPAD soit mise en connexion, je dirais, bien davantage avec le domicile, que ce soit en quelque sorte un centre de ressources qui puisse assurer des accueils temporaires, des accueils d'urgence, mais aussi qui autorise à des départs temporaires. Mais une fois encore, vous avez mis le doigt sur ce qui fait mal, nous n'avions pas de plan épidémie. Et ceci est bien évidemment une alerte, mais une alerte tellement douloureuse qu'il est difficile même de le concevoir et de le penser.
Michel Delaunay...
Oui, pardon.
Pardonnez-moi, comme on ne se voit pas, c'est compliqué. Je vous en prie, vous avez la parole.
C'est d'autant plus difficile que la plupart des épidémies ne touchent pas spécifiquement le grand âge. Les maladies respiratoires, oui, vous avez raison. Mais toutes les grandes épidémies que nous avons connues, en particulier l'immense grippe espagnole du début du siècle dernier, touchaient les 20 à 40 ans. La rubéole également, le choléra ne fait pas de distinction d'âge. Donc cette sélectivité du grand âge est une nouveauté, si j'ose m'exprimer ainsi. Et cela a certainement contribué à cette absence de vigilance qui a été la nôtre, et j'en assure parfaitement aussi la responsabilité, mais nous avions tellement l'espoir d'une loi grand âge que nous avons manqué cet enjeu considérable.
Une dernière question, Michel Delaunay. Il y a eu quelques polémiques pour savoir si le confinement, une décision qui va avoir un coût social, économique, pour sauver des vies, si ce confinement avait d'abord servi à sauver la vie de personnes âgées et, autrement dit, s'il n'y avait pas eu une autre possibilité qui aurait pu être saisie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez été ministre des personnes âgées ?
Alors, c'est aussi un peu en médecin et apprenti épidémiologiste que je dis, en effet, on aurait dû dire dès le début, les âgés se confinent pour que leurs petits-enfants puissent aller bien vite à l'école et les jeunes se confinent pour que leurs âgés, leurs parents, leurs grands-parents ne soient pas malades et emportés par la maladie. Moi, j'aurais aimé un langage de clarté. Mais en ce qui concerne le confinement lui-même, le confinement de la population, bien sûr, je n'y suis pas opposée. Je pense que c'était la seule arme à faire diminuer la température de l'épidémie. Parce que, vous savez, la maison brûle, etc. Je crois que cela est bon. Ce qui a été, par contre, il y a eu deux maladresses, je dis bien maladresses. Premièrement, c'est le confinement individuel dans les EHPAD qui a ajouté beaucoup de souffrance. Il fallait, en quelque sorte, tester les résidents et n'isoler que les malades, car la répercussion psychologique a été considérable. La deuxième maladresse, et d'avoir annoncé qu'on allait faire une limite d'âge pour le déconfinement, une barrière. C'était irréaliste, car imagine-t-on les policiers en train de traquer les cheveux blancs et ceux qui n'en ont pas pour savoir s'ils avaient 70, 71, 69. Par contre, et là c'est le médecin qui parle, personnellement, j'aurais peut-être même été un peu plus sévère.
Ah oui.
C'est-à-dire que j'aurais demandé que toutes les personnes de plus de 70 ans aient un avis médical de leur médecin traitant pour savoir s'ils pouvaient se déconfiner comme tous les autres. C'est finalement d'ailleurs le conseil qui a été donné, mais un conseil n'est pas toujours suffisant. Et je crois que ce point est important, sans vouloir être sévère. À 70 ans, même si on se sent très bien, il faut être sûr que les réactions immunitaires sont toujours dynamiques et vigoureuses.
Michel Delaunay, vous restez avec nous. Je rappelle que vous avez publié Le fabuleux destin des baby-boomers chez Plomb. On va continuer à évoquer les fins de vie et les maisons de retraite en compagnie de Mélise Besserie. Bonjour Mélise Besserie.
Bonjour Guillaume.
Votre roman Le Tiers-Temps, publié chez Gallimard, a reçu lundi le prix Goncourt du premier roman. Félicitations. Et dans ce livre, eh bien, vous évoquez les derniers mois de la vie de Samuel Beckett, les derniers mois qu'il a passés dans une maison de retraite parisienne, baptisée Le Tiers-Temps, après le décès de sa femme. Dans quel état est-il Samuel Beckett lorsqu'il entre dans cette maison de retraite ?
Alors, il y a l'état réel et l'état inventé. Ce que l'on sait de son état, c'est qu'il avait subi, il avait chuté chez lui, il avait des tremblements, il marchait mal, il était en partie dénutri et on pense qu'il avait peut-être un début de maladie de Parkinson. En tout cas, ça, c'est ce qui est marqué dans les biographies officielles, notamment celle de James Nolson. Après, c'est vrai que par rapport à cette histoire de maladie, moi, je me suis intéressée, disons, à ce que lui en racontait, notamment dans ses correspondances. Il dit qu'il a du mal à tenir sur ses jambes, il parle de ses tremblements et il parle très bien justement et avec l'humour féroce qu'on lui connaît de ce corps qui petit à petit le lâche.
Et vous évoquez justement donc dans ce roman trois temps. Les deux premiers évoquent les cinq derniers mois de la vie de Beckett, tandis qu'il réside donc dans cette maison de retraite. Et puis dans le troisième temps, Mélisse Bessery, son séjour dans un service de neurologie à l'hôpital Sainte-Anne. Pourquoi avoir choisi de s'intéresser au dernier moment de la vie d'un écrivain ?
Alors premièrement parce que ça m'intéressait de revenir sur l'ensemble de sa vie dans le désordre et que finalement la fin de vie permettait de traiter tout le reste et d'avoir toutes ces remontées de la mémoire qui revient par fragments, qui ramène l'Irlande, qui ramène Joyce, qui ramène toutes ses pensées de l'enfance et tout ce qu'il a emmené avec lui. Il faut savoir que la maison de retraite, en tout cas le tiers-temps tel que moi je l'ai imaginé, c'était une sorte de théâtre, de lieu clos. En plus, à l'intérieur de la maison de retraite, il y a la chambre que Samuel Beckett quitte au tout début pour aller faire quelques promenades et puis plus du tout puisqu'il décide de ne pas participer aux activités qui sont proposées, de prendre ses repas dans sa chambre. Et moi, ce que j'imaginais, c'était que finalement, à l'intérieur de cet espace, de ce monde devenu extrêmement petit et de plus en plus petit, il y avait encore cette puissance, cette vivacité de l'esprit du grand homme, de Samuel Beckett, qui finalement était arrivé avec toute la littérature qu'il avait engrangée en lui, tous les souvenirs de peinture qu'il avait vus. C'était un grand amateur de musique aussi. Donc j'imaginais que ce monde-là rendait à la fois le monde minuscule et infini, et que ces allers-retours-là entre l'extérieur qui lui parvient par les voix qui viennent de l'extérieur, il regarde par la fenêtre, il voit les activités des autres, il s'en amuse beaucoup d'ailleurs, et en même temps, il y a ce monde interne qui le suit partout.
Mais alors, ce qui est étrange, Mélisse Bessery, c'est que la personnalité de Beckett résonne à la fois avec la notion de distanciation sociale et aussi avec la notion de confinement, qui sont deux notions très actuelles.
En tout cas, dans le rapport aux autres et dans le rapport à la distance, chez Beckett, il y a à la fois ces grands liens d'amitié qu'il a pu avoir toute sa vie. On le voit dans ses correspondances notamment. Des liens très forts, très suivis. Il a été très généreux. Il a donné beaucoup d'argent. Il a soutenu des prisonniers. Il a soutenu des amis. Il a vraiment entretenu des gens qui en avaient besoin. Et en même temps, il y a ce côté un peu sauvage et un rapport aux autres qui est dans la distance et qui est surtout épistolaire. À part quelques amis qu'il fréquentait de près, il aimait beaucoup écrire à ses amis et recevoir leurs courriers. Donc il y a ce rapport à la fois toujours un peu loin des autres et toujours un peu avec l'écriture qui est toujours ce médium. Et j'imaginais que là-bas, c'était la même chose. Il est seul au milieu des autres. C'est vraiment un roman sur la solitude parce que le Beckett dont je parle, c'est évidemment Samuel Beckett, mais tel que moi, je l'ai imaginé en tant que personnage vivant cette fin de vie, cette déchéance qu'il a tant décrite dans son théâtre, la vivant lui-même et finalement l'appréhendant avec une forme de joie aussi, se disant voilà, je vais enfin éprouver ce qu'ont éprouvé mes personnages. Et j'aimais aussi cette idée de pouvoir imaginer la vieillesse pas simplement comme une tragédie mais aussi dans ses aspects peut-être comique, burlesque, puisque lui a beaucoup de dérision, d'autodérision à l'égard de ça, et comme une fin, au fond, qu'il vit avec un œil curieux.
Mais alors, justement, Mélisse Bessery, le fait qu'aujourd'hui, les conditions de vie dans les EHPAD soient au cœur de l'actualité, et qu'est-ce que ça vous inspire ? J'imagine que vous êtes allé dans ces lieux. Comment voyez-vous aujourd'hui, au regard de l'actualité, ces endroits que vous connaissez?
Il y a quand même cet aspect institutionnel, et ça, moi, ça m'intéressait autant ou presque que Beckett, c'est-à-dire cette idée d'enfermement et de semi-liberté, justement, Michel Delaunay en parlait juste avant, il y a cette idée d'être dans un lieu dont on comprend petit à petit qu'on ne va pas sortir. D'ailleurs, Beckett le dit ça dans sa correspondance, il va comprendre petit à petit qu'il ne va pas sortir, que ce n'est pas si temporaire que ça. Il y a cette notion, justement, de l'institution avec ses règles, ses consignes. Alors, ce n'était pas encore la fin des années 80, ce n'est pas encore la période, justement, des règles aussi rigides, de l'hygiène, etc. Mais il y a quand même ces idées de suivi médicaux. D'ailleurs, moi, j'ai introduit un système de carnets médicaux, de certificats médicaux qui sont introduits dans le livre et qui offrent une sorte de contrepoint à la narration à la première personne de Beckett. Moi, ce que j'imaginais dans ces lieux, c'était qu'il y a ce rapport étrange où tout le monde est sur un pied d'égalité et finalement, il y a un rapport un peu d'infantilisation liée au fait que le corps soit mis à disposition des autres qui doivent en prendre soin. Et il y a ce lien toujours un peu étrange de la personne, en tout cas c'est ce que j'imaginais de Beckett, qui se sent toujours un peu la même et qui est obligée d'être prise en charge. Et ça génère automatiquement des situations très étranges dans la manière dont on vous parle, dans la manière dont on s'adresse à vous. Et en même temps, à travers cette voix intérieure, Beckett, il montre que lui, même avec un système cognitif qui est de moins en moins performant, même avec la mémoire qui commence à se déliter, au fond de lui, il est toujours le même. Et cette vivacité reste le moteur qui fait que même à travers ses exercices de kiné, etc., il va jusqu'à la chute, il garde ce côté fougueux de Beckett. Et ça, j'aimais aussi l'idée de donner cette image-là de la vieillesse comme aussi quelque chose qui est de l'ordre de la continuité de la personne. Et l'aspect institutionnel nous le fait parfois oublier.
Oui, il est toujours le même, mais il est dans un sentiment d'étrangeté continuelle par rapport à son environnement, parce que un EHPAD, ça n'est pas chez vous. Notamment, vous écrivez, faisant parler Beckett, Maïlys, cette chambre n'est pas vraiment la mienne, ce n'est pas ma chambre, c'est là que l'on me garde, là que je réside, que je reçois désormais mes lettres.
Absolument. Il y a cette étrangeté d'être chez soi, pas chez soi, d'un lieu aseptisé, qui ressemble un peu à un hôpital, qu'on peut légèrement aménager, décorer. En même temps, les gens qui rentrent et qui sortent, vous les connaissez un peu ou pas trop, surtout si votre mémoire n'est plus toujours au rendez-vous. Ce sont des lieux très standardisés avec cet aspect institutionnel qui fait que même si le personnel est extrêmement bienveillant, il y a cette violence de se retrouver là pour des raisons qu'on n'a pas maîtrisées et avec une liberté empreinte d'une manière ou d'une autre. Ce qui correspondait à Beckett, c'est le corps empêché. Ce corps empêché qui, chez Beckett, se retrouve, par exemple, dans Oh les beaux jours, enfoncé dans le sable jusqu'au cou. Donc lui, c'est finalement le fond de son œuvre est toujours autour de ce corps qui souffre, du corps empêché, du corps qui décline. Et en même temps, j'imaginais qu'il y a une sorte de revanche de l'écrivain, moins le corps suit, plus le cerveau est rapide. En tout cas, c'est ce qui se passe pour une bonne partie du livre. Et il y a une sorte de vengeance intérieure face à ça. C'est-à-dire qu'il y a un humour féroce par rapport au langage utilisé dans les certificats médicaux, à la manière dont on parle de lui comme s'il était sous le microscope du docteur Itard. Il se sent un peu comme ça, un peu créature, un peu Victor de l'Aveyron. Et ça, justement, c'est un peu la revanche intérieure face à ça.
Un dernier mot, Michel Delaunay, un mot de conclusion, je vous prie.
Eh bien, je suis très admirative de cette compréhension de l'EHPAD par une femme si jeune. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'imaginer le monde d'après. Alors, manger local, acheter local, tout ça, c'est très bien. Mais nous devons tous imaginer comment nous voulons vivre ce grand âge. Et je pense que c'est un des points essentiels. Et ça doit être, comment dire, la morale, la conclusion de cette pandémie assez terrible.
Merci. Michel Delaunay, Le fabuleux destin des baby-boomers, c'est votre livre aux éditions Plomb et Le tiers-temps aux éditions Gallimard, l'ouvrage de Maïlys Besserie.